Alors, je vous salue dans le nom du Seigneur, même si on l'a fait pour plusieurs d'entre vous. On est touchés, Myriam et moi, d'être une nouvelle fois avec vous dans ce lieu, comme ça vient d'être dit. Voilà, donc on est là ensemble ce soir. Hier, on était à Lausanne, il y avait un couple qui fêtait ses 40 ans de mariage. En fait, c'était aujourd'hui le 1er mars, mais on allait hier. On a passé des temps merveilleux là-bas avec eux. On s'est adressé à eux et tout, avec d'autres couples. Enfin, c'était une fête merveilleuse. Amen. Alors que Dieu bénisse chacun, nos vies avec lui. Et c'est vrai qu'on est content de pouvoir encore le servir. Alléluia. On est un peu des retraités non pratiquants. Voilà, je crois qu'on veut dire ça comme ça. J'aime bien le terme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis, tant que la grâce de Dieu nous conduit, on va vraiment continuer, j'espère, jusqu'au bout, si Dieu nous donne sa grâce. Amen. Mais quelle que soit notre situation, que nous soyons, on peut être avec lui. Amen. C'est merveilleux tout cela. Alors que Dieu nous bénisse ensemble pour la suite. On loue Dieu vraiment pour ce merveilleux moment de louange qu'on vient de vivre, très fort, très inspirant, très libéré. C'est tellement important de toujours mettre le Seigneur en premier, aussi dans nos cœurs, dans nos vies et dans la louange. Je veux un peu vous parler ce soir d'un thème que j'ai assez à cœur ces temps, que je trouve assez important pour nos vies personnelles comme pour l'Église, pour chacune de nos relations d'ailleurs. C'est relié au thème de l'alliance qui traverse toute la Bible. On va trouver des alliances depuis les premiers chapitre de la Bible jusque dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. Amen. C'est magnifique. En fait, ça m'est venu parce que l'an dernier, au mois d'août, je présidais un mariage, et puis j'ai reçu de la part du Seigneur comme un mot-clé qui serait le fil conducteur pour le message qu'il y avait. Je savais aussi d'ailleurs qu'il y aurait toutes sortes de personnes non croyantes qui étaient là, donc bien sûr qu'il y a aussi cette sensibilité à avoir, mais j'avais vraiment reçu le mot alliance, et puis voilà, vous allez me dire, mais avoir le mot alliance pour un mariage, c'est pas chercher bien loin, c'est en tout cas pas un scoop, et puis c'est bien vrai, les alliances mariage, c'est pas simplement ce que nous mettons au doigt, bien entendu, mais c'est toute une vie qui continue, ça c'est bien vrai. Mais combien c'est important, c'est essentiel, et surtout dans les temps où nous vivons, où il y a beaucoup de choses qui sont en train de partir à toute vitesse, n'est-ce pas, ou des valeurs qui s'en vont. Et c'est pourquoi on a besoin toujours de revenir à l'essentiel. Et quand on va dans cette dimension-là, c'est magnifique. Et c'est pour ça que je commencerai par lire un texte. C'est pas vraiment les origines, mais c'est un bon point de départ. C'est donc dans Genèse 15. On connaît certainement assez bien le passage, on est obligé de sauter un peu les versets, mais dans Genèse 15, je lis, depuis le verset 9, on peut lire déjà depuis le verset un petit peu plus tôt, oui, voilà, depuis le verset 4. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, donc son serviteur, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Il sortait vraiment de ses entrailles. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde. Donc Dieu le conduit dehors. Et Dieu lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa justice. Voilà quelque chose de magnifique. Donc il a cru vraiment ce que Dieu lui disait. Et ça lui était vraiment donné. Peut-être un peu plus loin. On peut lire que Abraham pose la question au verset 8, mais Seigneur, comment, à quoi est-ce que je vais connaître, que je vais posséder là tout ce que tu me dis? Quelle est la garantie de cette promesse? Quel en sera le signe? Et voilà que Dieu lui dit, prends une jeunisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Et Abraham prit tous ces animaux et les coupa par le milieu et y mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Bon, il est précisé qu'il ne partagea pas tous les oiseaux, on ne peut pas tout voir. Et au verset 18, on saute un peu plus loin, ici c'est au bas de la page de ma Bible. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. ce jour-là, l'Éternel fit alliance. Remarquez bien que c'est avant tout l'Éternel qui fit alliance avec Abraham. C'est lui qui en est l'initiateur, n'est-ce pas? C'est lui qui prend tous les devants. Et puis c'est aussi lui qui a, on va dire, les termes du contrat, n'est-ce pas? Parce que là où il y a une alliance, il y a un contrat, il y a des paroles, il y a des promesses. Et vraiment, c'est Dieu qui prend tout en main. Il fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » Et il indique exactement donc les dimensions, enfin le contour géographique, etc. Bon, c'est quand même intéressant de voir que ce thème reste d'actualité. On est bien d'accord. Tout ce que Dieu fait dérange, n'est-ce pas? Et même est contesté. Mais comme nous connaissons la fin de l'histoire par la parole, eh bien nous savons tout comment ça va se terminer. Amen. Mais c'est dingue parce qu'ici, tout de suite, le jour où Dieu parle, l'Éternel, eh bien, il a dit « je te donne », c'est pas « je te donnerai ». Ça veut bien dire que souvent, lorsque Dieu dit quelque chose, au moment où il le dit, la chose, elle est là, elle existe, et puis elle est à nous. Amen. Et nous devons la prendre comme telle, même si ce n'est pas arrivé tout de suite. Dans les héros de la foi, on voit qu'il y a des hommes, des femmes qui ont vraiment reçu des promesses et des énumérations merveilleuses parmi les héros de la foi dans Hébreux 11. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, qui n'ont pas reçu toutes leurs promesses. Il est même dit qu'ils ne l'ont pas reçu afin qu'ils ne reçoivent tout ça avant que nous aussi, nous soyons arrivés à la perfection. Il y a des choses qu'on va recevoir ensemble. Et il y a d'autres choses qui sont pour nous aujourd'hui. On ne comprend pas toujours. Il y a des fois des questions qui se posent. Il y a des fois des mystères. Mais nous pouvons totalement faire confiance à Dieu. Alléluia. Amen. De toute façon, quelles que soient les situations, parce que c'est le Seigneur finalement qui a les promesses et qui a les réponses. Bien sûr que cette pratique ici de couper des animaux en deux, etc., ça peut un peu paraître macabre et tout ce qu'on veut, il y a déjà assez d'histoires de sang comme ça dans le monde, mais c'est vrai que depuis le péché est entré dans le monde, Dieu a dû agir vraiment avec force, etc., et aussi commencer de se mettre à faire des sacrifices pour retrouver une relation avec les hommes, avec l'humanité. C'est impressionnant tout cela, quoi. Ça prend du temps. Le mot « alliance » signifie par exemple « lier » ou « assembler ». Ça dit déjà beaucoup, hein. Il y a donc des liens qui vont se tisser, il y a un assemblement, ça va favoriser aussi des rassemblements et des relations. Et je crois vraiment que toutes nos relations, tout ce que nous vivons, on peut parler des couples, du mariage, mais de n'importe quoi, tout doit passer par le sang. Le sang, pour que cette alliance soit validée. Et c'est intéressant parce que même on va dire facilement dans notre langage que nous faisons alliance, des gens font alliance, etc. C'est magnifique, mais on devrait plutôt parler de couper l'alliance, dans le sens que ça nous rappelle que dans cette alliance, il y a eu un sacrifice, il y a des animaux qui ont été coupés, partagés en deux, et justement, à ce moment-là, eh bien, il se trouvait que les parties qui faisaient alliance, les personnes qui faisaient alliance, coupaient donc un animal en deux et marchaient entre les deux moitiés ensanglantées. Vous imaginez un peu le tableau. C'est quand même impressionnant, n'est-ce pas? Et ce faisant, il déclarait que comme participant, il ne formait plus qu'un seul esprit et montrait ce qui arriverait à celui qui romprait l'alliance. Donc une alliance, je vous dis tout de suite, ça ne se rompait pas si facilement que cela. Il fallait réfléchir à deux fois avant de la faire parce qu'on savait où ça allait nous mener. Amen. Mais c'est vraiment quelque chose de sérieux. Tout ça, ces énumérations que je fais maintenant, je les ai trouvées dans le livre Déboucher les puits du réveil de Lou Engle, c'est dans les pages 73-73. Donc là on trouve cette énumération, c'est très intéressant, je crois que ça peut être parlant. Les participants aussi lisaient ensuite les promesses, puis aussi les bénédictions, les résultats qui étaient associés à ces alliances, à la conclusion de cette alliance. Comme aussi, il y avait des malédictions qui étaient là pour ceux qui romperaient cette alliance. Et les participants faisaient aussi des vœux l'un à l'égard de l'autre. Ils échangeaient même des présents, des vêtements, des bagues, des épées et autre chose. Et ça voulait vraiment dire que ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi. C'était vraiment le don dans la réciprocité. Et il y a aussi le fait que si quelqu'un, l'un d'eux, était attaqué par la suite, eh bien, il viendrait soutenir cet ami qui avait fait l'alliance et il le protégerait aussi. Il entrerait donc aussi là pour le protéger et venir le soutenir. Il y a aussi le fait que ça devenait presque aussi une fête, un festin, puisque ça se concluait aussi par un repas. Un repas, intéressant aussi. Il y avait une fête. Et dès la conclusion de cette alliance, aucun des deux participants ne pouvait plus dire du mal de l'autre. C'est énorme. C'est très parlant. Récemment, je parlais de cela dans une communauté dans le Valais. À la fin du message, une des sœurs est venue. Elle est venue vers moi, vraiment, elle était très touchée. Rien que par cette parole, le reste, je ne sais pas si elle l'a retenue, mais c'était suffisant pour elle. Elle m'a dit, elle me disait, vois-tu, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus jamais dire du mal de mon mari. Je ne sais pas si on se rend compte de la différence que ça peut faire. Amen, rien que cela. Enfin, c'est très touchant, mais Dieu l'a saisi comme ça, et j'ai béni le Seigneur, il y a eu d'autres choses, c'est vrai, mais c'était tellement que c'est quelque chose qui est vraiment sérieux. Voilà, donc un petit peu ce que ça représentait que cette alliance. Peut-être déjà que vous anticipez, et puis que nous avançons pour un autre sacrifice qui aura lieu, amen, n'est-ce pas? Nous savons lequel, que nous célébrons si souvent. Et quand je lis cela, je me dis aussi, mais c'est magnifique, puisque vraiment le repas du Seigneur, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance au travers du sang de Jésus, qui nous amène à ne plus offrir de sacrifice parce qu'il a tout accompli, il est parfait, il est irréversible, il est éternel. Et cette célébration-là, ce souvenir-là, il fait que ça se fait dans le cadre d'un repas. On ne le fait pas forcément, vous êtes d'accord, mais en tout cas, quand Jésus l'a institué, puisque c'est un peu dans la prolongation de la fête de la Pâque juive, n'est-ce pas, eh bien, ça se faisait dans un repas, et c'est pour ça qu'on peut reprendre certainement beaucoup de choses pour mieux intégrer ce que représente, je dirais, le repas du Seigneur pour nous et son sacrifice à la croix. Chaque détail, et là on va un petit peu rapidement, peut vraiment nous aider à rentrer davantage, en tout cas, dans qui est vraiment Jésus-Christ. Alléluia. Je repense même à ce que Jésus disait, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, il disait « Avant qu'Abraham fût « Je suis », n'est-ce pas? Bien sûr. Mais il va dire aussi qu'Abraham avait vu son jour. Abraham avait déjà vu l'arrivée de Jésus-Christ. Vous imaginez la révélation qu'il avait, puisqu'il y a à peu près 15 siècles qui séparent Jésus pour remonter dans le temps. On peut vraiment dire que Dieu a de la suite dans les idées. Amen. Ouais. Il y aurait plusieurs choses là de ce que Jésus a dit à ce moment-là. Je ne veux pas aller trop vite en besogne, disons, mais peut-être juste dire que dans la parole, le mot « alliance » est aussi très proche du mot « testament ». Ils sont très proches. C'est vrai que quand on parle d'un testament, c'est aussi un contrat, n'est-ce pas? Mais un testament n'a aucune valeur tant qu'une des deux parties décède. On est bien d'accord avec ça? Si on fait un testament, il aura la valeur seulement au moment où une des personnes va mourir. Et c'est intéressant parce que ça reste vraiment dans l'esprit de ce texte d'Abraham. On pourrait juste lire quand même peut-être Hébreux 9, où je vous le lis. Hébreux 9, toute cette lettre aux Hébreux est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, on va un petit peu couper, mais je lirai peut-être 9 depuis le verset 11, je crois. Oh, on ne veut peut-être pas tout lire. Oui, on veut peut-être, vous pourriez le lire à la maison, mais lisons simplement depuis le verset 16. C'est verset 15 déjà. Et c'est pour cela donc, que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur est promis. C'est pas magnifique? Il est question d'héritage ici, et c'est énorme comme héritage. Car là, et surtout le verset 16, car là où il y a un testament, et j'ai une petite note ici dans ma Bible second, qui va dire que le mot grec traduit ici par testament est rendu généralement par alliance. Voyez, donc même les traducteurs reconnaissent que c'est très proche, mais dans l'idée du testament, nous y voyons bien sûr quelque chose d'autre. Voilà. Car là, il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Je continue quand même. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple, donc on va encore un peu plus loin qu'Abraham, mais ça continue dans le même sens, tous les commandements de la loi, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. En disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et il fait pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Waouh ! Et sans pardon, il n'y a pas de relation. Amen. Il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de transmission. Enfin, tout est basé finalement sur cette alliance. Le concept d'alliance est central pour nous pour comprendre l'ensemble de la révélation divine. En saisissant la nature de l'alliance, nous pouvons mieux comprendre la vraie signification du message de Dieu pour vous. Pour nous. Amen. Ça va très loin, je crois vraiment. Très, très loin. J'essaye un peu d'abréger. Vous savez, tout est lié par le sang. Alors, bien sûr qu'il y a aussi tous les liens du sang que nous avons. On est bien d'accord. Nous sommes tous liés, nous, à des familles, à des descendants. N'est-ce pas? On est bien d'accord. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, en remontant, quoi. Et c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte, mais que quand on parle, par exemple, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, c'est que Dieu veut vraiment nous dire quelque chose de très important, amen, pour nous, pour les générations à venir, et aussi d'où nous venons. Le lien du sang. Vous avez aujourd'hui des gens, dans certaines tribus, prenez par exemple, je crois, le film « L'enfant de paix », n'est-ce pas, où effectivement nous voyons que les hommes, qui sans connaître la loi de Dieu, comme dit Romains 1, eh bien, faisaient naturellement cette loi qui est écrite pour des alliances, pour des paix, pour la paix. C'est incroyable, déjà, la révélation primaire qu'ils avaient, n'est-ce pas, ça c'est clair. Vous avez aujourd'hui des sociétés secrètes, occultes, qui font encore des alliances avec le sang, hein, etc. Alors, bien sûr, pas dans le sens où nous l'entendons, mais dans un autre sens, qui est aussi une force, une puissance spirituelle. Et c'est pour dire que nous n'avons pas besoin de le faire, parce que nous nous référons maintenant au sang de Jésus, amen, et au sang de l'agneau. Il y a quelqu'un qui l'a fait à notre place. Et même Abraham va l'apprendre, puisque un peu plus tard, au chapitre 22 de la Genèse, l'Éternel va lui demander d'offrir son propre fils, celui qui devait donner l'héritage, la suite, l'avenir, la destinée. Et tout d'un coup, Dieu lui demande, c'est une folie d'offrir son fils en sacrifice, n'est-ce pas? Et il dit bien, son unique. C'est comme si Dieu disait un jour, moi je vais l'offrir mon fils, mon unique. Amen, c'est extraordinaire. Mais nous savons qu'Abraham n'a pas besoin de le faire. L'enseignement était, non, il y a quelqu'un qui est là à la place et au dernier moment, il y a eu le substitut. Et nous aussi, nous avons droit à un substitut qui est vraiment Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas développer tout ça, mais ça nous demanderait d'aller simplement dans des méditations pour vraiment accueillir toujours plus profondément cette œuvre de Jésus-Christ pour nous. Et je trouve ça quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelques mois, je suis allé voir un film Quand j'ai vu un peu le thème, je suis allé le voir, ça s'intitule « Ad Astra », ça veut dire donc « vers les astres hein, », paraît-il en latin. Bref, c'est une histoire dans laquelle Brad Pitt va partir loin, bien loin dans les étoiles, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce qu'au début du film, eh bien, on voit que cet homme qui va dans les étoiles va simplement rejoindre son père qui, lorsqu'il était bébé, était parti comme cosmonaute, n'est-ce pas, dans les étoiles. C'est bien sûr de la fiction. Mais tout d'un coup, ce fils avait besoin de retrouver son père. Alors, ce qui nous touche, c'est peut-être pas le film, mais le fond que ça veut dire. Et c'est pour dire qu'il reste toujours une idée dans nos identités, d'où nous venons, qui est mon père, qui est ma mère, etc. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de casser, de briser ce qui est le fondement de la société. Bien sûr, aussi toute la structure de l'Église, du peuple de Dieu, mais simplement de l'humanité, même sans parler d'hommes et de femmes, peut-être qui ne croient en rien ou on ne sait à quelle spiritualité. On est en train de vouloir gommer quelque chose de tellement important et nous allons vers un monde qui sera de plus en plus perdu. Mais heureusement, nous pouvons garder notre traçabilité, nos origines, nos racines, parce que nous savons d'où nous venons et nous savons aussi où nous allons. Amen. Nous savons quelle est notre destinée. Et tout cela, nous devons, je pense, de mieux en mieux le connaître, de pouvoir en parler, de partager ces choses pour parler de l'espérance qui est en nous et d'où elle vient jusque-là et que finalement, nous l'avons vraiment découvert dans le sang de l'Alliance. Amen. De la nouvelle Alliance qui était déjà promise au peuple de Dieu. Dans Jérémie, chapitre 31, n'est-ce pas, etc., où vraiment l'annonce du Fils à venir est déjà là et nous pouvons le bénir de cette grande fête qui a été lorsque Jésus est venu. Et c'est pourquoi les anges ont dit « Voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour le peuple, etc. » Là, c'est vraiment cette bonne nouvelle, cet évangile. Amen. D'ailleurs, le mot « évangile », paraît-il, vient simplement du fait que lorsque l'empereur, à l'époque, allait être en train de recevoir un enfant, un fils, par exemple, ça allait être annoncé dans tout l'Empire, et vous aviez des héros, des gens qui allaient le proclamer bien haut, n'est-ce pas, au son du cor ou de la trompette, je ne sais pas. Et le fait qu'ils annoncent cela, ça s'appelait « évangile ». C'est de là que vient le mot évangile, il ne faut pas le croire. Tous les mots de la Bible sont devenus pour nous des gens, des noms peut-être souvent religieux et tout, mais dans le contexte de l'époque, on pouvait beaucoup mieux les comprendre parce que ça correspondait à la réalité du moment. C'était une bonne nouvelle, un fils est né, amen. Et c'est ça la bonne nouvelle. Le fils est né, celui qui mourra. Mais fort heureusement, il ne va pas seulement mourir, mais il va ressusciter. Alléluia. Mais il faut absolument que ça passe par l'amour. Il n'y a aucune promesse qui peut se réaliser si ça ne passe pas par l'amour. C'est incroyable. Et c'est vrai pour nous aussi. Jésus est mort pour le pardon de nos péchés, mais il est aussi mort pour effacer notre ancienne vie et pour nous aider à être dans cette nouvelle vie, pour marcher en nouveauté de vie. C'est frappant de voir, par exemple, que quand on lit Romains, tout d'un coup, l'apôtre Paul pose la question, mais ignorez-vous, vous tous qui avez été baptisés, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Est-ce que nous réalisons vraiment ce que ça veut dire pour nous, réellement, spirituellement, au point où on n'a pas besoin de mourir, mais sa mort devient la nôtre. Mais ensuite, il va ajouter, afin que nous vivions en, alléluia, en nouveauté de vie. Mais tout passe par la mort. Tout passe par la croix et ça doit rester pour nous quand même un message central qu'on doit de plus en plus connaître et développer. Et c'est pourquoi ce n'est pas très étonnant, je dirais, que, en tout cas dans la première église, on voit qu'ils célébraient le Seigneur, bien sûr, par la louange, par l'adoration et tout. Mais toute cette louange, cette adoration aussi, il y aurait des textes que je pourrais vous montrer, qui passent automatiquement aussi par le sang. Tout passe par le sang. Amen. Regardez le tabernacle aussi. À l'entrée du tabernacle, il y a cet autel des holocaustes, des sacrifices, etc. Et avant d'aller plus loin, tout passe finalement par le sang. Donc tout passe par la croix pour amener la vie et pour amener la vie de l'esprit et finalement la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu qui peut réellement se manifester parce que tout est nettoyé, tout est purifié, tout est accompli et c'est vraiment une excellente nouvelle. Amen. C'est merveilleux tout cela. C'est extraordinaire. Ce qu'on pourrait dire aussi, n'est-ce pas, il faut bien leur dire, c'est que l'alliance est la base de toute relation. Les hommes parlent de paix, on veut quand même les bénir malgré tout. Pendant qu'ils parlent de paix, ils sont en train de se taper dessus. La Bible parle d'hommes et de femmes de bonne volonté. Il les met dans une certaine catégorie, si on veut bien. Et on peut les bénir, on peut prier pour eux. Mais la vraie et la seule paix, nous savons d'où elle va venir. C'est Jésus qui est le prince de la paix. C'est lui qui va tout rétablir. Et là encore, ce sera toujours au travers du sang de la croix. Quand on voit le clivage qu'il y avait déjà du temps des apôtres, où il est dit que c'est par le sang que tout mur d'inimitié a été brisé par son sang afin de nous rassembler en un seul peuple, etc., juifs et non-juifs, etc. Donc finalement, tout passe par le sang. Et ici, il s'agit bien sûr du sang de la croix. Il est évident, évidemment, que cette question-là nous concerne tous avant tout personnellement. Alléluia, on est bien d'accord. Nous sommes amenés à avoir une relation personnelle, intime avec Dieu qui peut et qui doit grandir de jour en jour. C'est l'évidence, on est bien d'accord. Et combien c'est important, il n'y a qu'à voir l'histoire de Jésus avec Nicodème, un chef religieux des Juifs, peut-être le grand rabbin de Jérusalem de l'époque, je ne sais pas, peut-être, peu importe. Il savait tout, et puis en fait, lui dit, mais toi qui es là, tu ne connais pas ces choses, etc. Il lui demande de passer par une nouvelle naissance, n'est-ce pas? Et c'est dans le même chapitre, voyez-vous, il y a un lien extraordinaire avec la suite du chapitre 3, où tout d'un coup, Jésus va dire, mais de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, et il est en train de parler de sa mort à la croix. Et il ajoute, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est aussi un petit peu l'arrière-plan qui doit nous caractériser dans notre message de la bonne nouvelle que nous avons, puisqu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on en a besoin tous les jours de notre vie, pour la grâce, le pardon, la relation, etc. Donc ensuite, je crois de plus en plus que nous ne pouvons pas avoir de vraies relations avec quiconque tant que ceci ne passe pas vraiment par cette dimension de l'alliance. Et là, on pourrait voir beaucoup de passages dans la Bible qui en parlent, il est vrai, mais le temps n'est pas là pour ça maintenant. Mais on n'a donc pas simplement une relation avec Dieu, mais une relation avec son peuple, donc entre les croyants, je dirais. Ceux qui ont une relation d'alliance avec Dieu ont nécessairement aussi une relation d'alliance entre eux. Ça, c'est Derek Prince qui nous dit ça, et combien ce serait bien sûr aussi à développer. C'est aussi fort que cela, et puis en même temps, je dirais aussi, c'est aussi simple que cela. Amen. Mais c'est vrai, quoi. C'est aussi simple que cela. Amen. Et c'est des alliances qui vont durer. Prenons l'exemple de David et de Jonathan. C'est merveilleux cette histoire. Hein? Ils ont fait alliance. Rien que ça, c'est un message en soi. À un moment donné, vous avez même Jonathan qui lui remet sa tunique. Ça veut, c'est pratiquement quelque chose de prophétique. David, tu deviendras roi. Il lui remet son épée aussi. Il y a eu un échange qui a été fait, là, d'objets, etc. Et David, bien sûr, le deviendra, ou ça prendra du temps, il est vrai. Les choses se font les unes après les autres, à son rythme à lui, c'est vrai. Et puis, beaucoup plus tard, alors que Jonathan, d'ailleurs, et son père Saül sont morts, un jour, David dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un de la maison de Jonathan pour laquelle ou de Saül pour lequel je pourrais lui faire du bien? Et là, Mephibosheth, mais il a pris une trouille terrible. Il s'est dit, je vais me faire zigouiller, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, il est vrai que lorsqu'un quelqu'un avait été vaincu, non seulement le chef de l'époque savait que c'était terminé pour lui, mais souvent ses proches, sa famille, ses serviteurs, ses servantes, comme ça on est sûr d'avoir liquidé tout le monde, on a vraiment les coudées franches et tout va bien, n'est-ce pas? Eh bien non, voyez, mais là on a un merveilleux exemple aussi de qui est Jésus-Christ là derrière. Amen. Qui ne tient pas rigueur et qui est là pour amener finalement la réconciliation. J'aime beaucoup le texte dans 2 Corinthiens, chapitre 5, où il dit que nous apportons le ministère de la réconciliation. Nous amenons la parole de la réconciliation. Et dans ce chapitre, là aussi, un passage, peut-être qu'on n'y est peut-être pas toujours assez attentif, il est dit que puisqu'un seul est mort, tous donc sont morts. Celui qui est mort, le seul qui est vraiment mort pour nous, c'est Jésus. Amen. Puisqu'il est mort, tous donc sont morts, afin que ceux qui vivent, c'est un vrai paradoxe, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mais c'est magnifique. C'est un changement complet de vie. Et c'est dans ce chapitre-là qui est bien dit que si vraiment nous sommes en Christ jusque-là, avec toutes les profondeurs de Dieu que ça peut représenter, eh bien, nous sommes de nouvelles créatures, une nouvelle création. Les choses sont en train de devenir passées et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Mais c'est magnifique. Tout devient simple dans l'accompli du Seigneur. Je trouve ça merveilleux. Alléluia. C'est magnifique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et oui, c'est une alliance dont Dieu en a défini les modalités. Et selon certains contrats qu'on a eus dans la vie, on était déçus des fois, vous ne trouvez pas? D'ailleurs, il y a des fois, c'est écrit en tellement petites lettres, il faut presque une loupe pour pouvoir lire ce que c'est. Puis encore, on ne comprend peut-être pas exactement ce que c'est. Puis le jour qu'on va s'y référer, « Ah non, écoutez, ce n'était pas tout à fait ce que ça voulait dire, etc. » En tout cas, il y en a un qui ne nous trompe jamais, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi le roi David, à la fin de sa vie, c'est dans un beau psaume qu'on trouve dans 2 Samuel 23, il va dire « L'Éternel a accompli à mon égard et à l'égard de toute ma maison des ordonnances, des statuts parfaitement bien réglés et offrant pleine sécurité. » Alléluia. Quand je lis l'histoire d'Abraham et que je vois que l'Éternel lui dit, Abraham, je suis ton bouclier. Combien aujourd'hui on a besoin de savoir que le Seigneur est constamment notre bouclier. Amen. Parce qu'il y a une phobie, comment est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui? On parle d'anxiogène. On est en train de générer toutes sortes de peurs, de craintes. Pas besoin de les chercher, elles vont grandir partout, c'est normal. Il y a une crainte qui va grandir, je ne veux pas vous faire tout ce qu'on entend à la radio, à la télévision, n'est-ce pas? Mais heureusement qu'il est vraiment notre protecteur et nous savons qu'avec lui, nous allons arriver à destination. Que son nom soit béni. Il y a un psaume que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, c'est psaume 25, verset 14, où il est dit que l'intimité de Dieu est pour ceux qui le craignent. Tout au début du culte, il y a une parole qui allait dans le fait de craindre l'Éternel. Amen. Je crois que c'est la première parole qui était dite ce soir, n'est-ce pas? Voilà. L'intimité de Dieu est pour ceux qui le craignent, verset 14, et son alliance est là pour les instruire. Vous voyez qu'on est relié à l'alliance, là. On reçoit instruction, on reçoit révélation de ce que c'est. Et c'est sur cette charte, sur toutes ces paroles que nous avons qu'à simplement recevoir, accueillir pour les vivre. C'est quelque chose de merveilleux. Pour ceux qui le craignent, il y a une petite note ici que j'ai. Ceux qui le craignent, c'est pour ceux qui le craignent, il est dit, pour ceux qui se fait leur intime. Pour ceux qui se confient, et il les initie. Et elle leur sert à instruire, à initier aussi. Elle est source d'illumination. Elle leur donne l'instruction ou leur révèle, leur dévoile son alliance. Petit à petit, on grandit. J'aime bien aussi la Tobe qui dit tout simplement, le Seigneur se confie à ceux qui le craignent en leur faisant part de son alliance. Si vraiment nous prenons le Seigneur au sérieux, lui aussi nous prend au sérieux. Amen. Il ne veut plus nous donner trop de révélations si finalement nous ne sommes pas prêts à aller de l'avant et à obéir. C'est aussi simple que ça, quelque part. C'est vrai, quoi. Un jour, je crois que c'était Bénigne qui disait que quelqu'un lui avait posé la question, mais en fait, il ne connaissait pas vraiment Catherine Kuhlmann personnellement, mais il avait beaucoup travaillé là-dessus, sur qui était cette femme de Dieu, n'est-ce pas, avec ce ministère merveilleux qu'elle avait eu. Et il disait que d'après la personne qui était très proche de Catherine Kuhlmann, une de ses caractéristiques, il disait, c'est que vraiment Dieu a confiance en elle. On n'entend pas ça tous les jours. Alors que nous ayons, nous, confiance en Dieu, hein, je crois qu'on en a besoin et c'est de jour en jour que nous allons, j'espère, grandir là-dedans. Mais quand quelqu'un ou que Dieu nous dise « mais j'ai confiance en toi », et là, c'est quand même écrit dans la parole, je suis frappé de voir combien il y a une attente du Seigneur, ça change, et c'est pour ça que Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Moïse a été appelé l'ami de Dieu. Jésus va dire à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. C'est pas pour ça qu'on ne reste plus des serviteurs. On n'est pas automatiquement des copains du Seigneur. Et même si nous sommes ses amis, nous allons continuer de le servir. Amen. J'aime tellement Paul qui va dire aux Corinthiens, il va leur dire, bien que je sois libre à l'égard de tous, pas de souci, le Seigneur, il m'a libéré. Je suis libre à l'égard de tous les hommes, mais ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Quel programme, ce n'est pas magnifique ça? Et c'est dans cette mesure-là aussi que nous pouvons vraiment être efficaces, que les relations peuvent vraiment s'établir, que des miracles peuvent se produire, n'est-ce pas? J'aime tellement de voir qu'au début de l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est chapitre 1, verset 9, sauf erreur, et là, Paul, il aura des choses à dire, n'est-ce pas, aux Corinthiens? Ce n'est pas de la tarte, il y a du travail. Il commence d'ailleurs à les appeler aux saints qui sont à Corinthe, il les appelle saints, certainement par la foi, parce que Paul voyait tout homme, toute femme devenir parfait en Christ. Alléluia, amen. Et j'étais content parce que récemment, le Seigneur me consolait vraiment. Je priais pour certaines choses et tout, et puis même par rapport à soi-même, des fois on est un petit peu en désespoir par nos peurs à nous-mêmes, au rythme où nous avançons. Parfois même on a des fois l'impression un peu de reculer, puis en fait le Seigneur il nous encourage quand même, amen. Il nous reprend, il nous aide à avancer quand même. Mais il y a ce verset que l'apôtre Jean dit, il dit bien, « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. » Alors jusque-là, acceptons d'être simplement en chemin, en progressant, non pas dans la perfection, tout en courant. Et Zeboursan, n'ayons peut-être pas toujours trop d'exigences sur nous-mêmes, en tout cas pas sur les autres, et surtout sur nos proches. Hier encore, je disais combien de fois au début de mon mariage, nous voulions nous changer réciproquement. Et au bout d'un moment, on a vu que ça ne marchait pas. C'était le désespoir. Et le jour où on a décidé le contraire, eh bien, c'est devenu tellement meilleur et plus facile. Ce n'est pas pour accepter n'importe quoi, ce n'est pas du tout ça, c'est tout autre chose. Je me souviens une fois, j'avais fait je ne sais plus, je pense, parce que le Seigneur m'a pardonné, Myriam aussi, c'est évident. Mais après, j'avais dit, je parlais avec elle et je lui dis, mais alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Bon, alors on se pardonne et tout, etc., tu me pardonnes et tout. Et puis, j'ai parlé au Seigneur. Ah bon, mais tant mieux, ça c'est magnifique. Elle m'a dit ça. Je lui dis, alors qu'est-ce qu'il t'a dit le Seigneur? Elle m'a dit, il m'a dit qu'il allait te changer. J'ai dit, c'est plus elle, c'est lui. Amen. Mais seulement ça fait chaud là, parce que c'est pas, attention, là c'est la totale avec le Seigneur, vous êtes d'accord? Amen. Alors, mais ça continue par la grâce de Dieu et puis on va continuer. Mais vous voyez, tout est basé sur l'alliance, sur les alliances, je crois qu'on veut pas. Il y aurait peut-être quand même un psaume là que je vous lis pour terminer. Je ne sais plus, il doit être par là. C'est un texte merveilleux aussi que j'ai découvert ces derniers mois. C'est dans le psaume 50, verset Là, vraiment, ça se termine avec la louange, l'adoration, ce psaume magnifique. Mais verset 5, « Rassemblez devant moi les miens, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. » 1000 ans avant la venue du Messie. Waouh ! Qu'est-ce que c'est que depuis qu'il est venu ? C'est extraordinaire. Alors, je suis quand même allé voir dans des petites notes, « Rassemblez devant moi les miens, j'ai... » Mais rassemblez devant moi mes serviteurs, mes saints, mes dévots. J'espère qu'il n'y a pas trop de religiosité derrière la dévotion, parce que le pire, c'est la religiosité qui nous amène souvent à devenir des hypocrites, puis finalement nous couper de Dieu. Mais une sainte dévotion, dévotionnelle. Mes amis, mes pieux, ceux qui m'aiment. Voilà, c'est ça les miens, les siens du Seigneur. Qui ont fait l'alliance par le sacrifice. Alors, sous sacrifice, il y a ceci, qui participent à mon alliance par un sacrifice, qui l'ont signé, qui l'ont sanctionné d'un sacrifice, qui célèbre mon alliance dans les sacrifices, qui célèbre mon alliance en sacrifiant. C'est fort. Ça, c'est un psaume d'Azaph. C'est prodigieux, quoi. Et le dernier verset est totalement basé sur la louange, l'adoration, parce que tout commence, je dirais, tout va aussi finir par l'adoration. Et c'est pourquoi dans le repas du Seigneur, il y a une fête, il y a la joie, il y a un repas. Et heureusement que par la grâce de Dieu, on peut le prendre aujourd'hui, non pas parce qu'on est parfait, mais simplement parce que je vais encore recourir à toi aujourd'hui. J'étais content, le prédicateur de dimanche passé à Palais Expo, ça m'a tellement touché quand il a dit, voyez-vous, je veux être différent ce soir que comme je suis ce matin. Et c'est vrai que la vie est passionnante avec le Seigneur, parce que c'est continuellement que nous pouvons continuer de changer. Et c'est lui qui nous transforme par son esprit, de gloire en gloire. Mais pour cela, j'ai vraiment besoin de lui. Et si on revient au repas du Seigneur, c'est aussi de voir, non peut-être plus les animaux partagés, mais le sang partagé, le corps du Christ qui a été partagé. Voici, c'est ici le sang de la nouvelle alliance, etc. Et je peux la comprendre peut-être un peu mieux en allant plonger, je dirais, l'origine de tout ça. C'est un peu notre GPS, la parole de Dieu. Amen. J'aime bien aussi dire GPS, ça veut dire guidé par le Seigneur. Amen. Alors, bonne suite, bon chemin. Je crois que nous allons prendre le repas du Seigneur, n'est-ce pas? Et nous pouvons vraiment le remercier, lui rendre grâce, lui rendre glas. Jésus a rendu grâce. Quand il a rendu grâce, c'est-à-dire qu'il a remercié, qu'il y a une idée de remerciement, il y a une idée de joie, il y a une idée, mais ça nous change complètement. Et ça doit vraiment tellement nous toucher que ça continue de bouleverser nos vies aussi pour vraiment vivre dans cette union avec le Seigneur, mais aussi les uns avec les autres. Il paraît qu'au début de l'histoire, de l'Église qui était... qui est la suite de l'histoire du peuple de Dieu d'avant la Nouvelle Alliance, évidemment, bien entendu. Il n'y a qu'un seul corps. Ça, c'est Paul qui le dit dans Éphésiens chapitre 3. Et nous avons été ajoutés, nous, à ce même corps. Il n'y en a qu'un. Comme il y a les mêmes promesses, il y a le même héritage. Mais pour bien préciser, Paul ajoute « en Jésus-Christ et par l'Évangile ». Mais il n'y a pas de rupture. C'est une continuité. Et nous ne pouvons pas être séparés les uns des autres. Le seul qui cherche à séparer, à couper les choses, c'est le séparateur, puisque son nom signifie non seulement diffamateur, mais séparateur, n'est-ce pas? On est bien d'accord, quoi. Et il semblerait que ce repas, au début, les croyants l'appelaient volontiers « Toda ». Et « Toda », en hébreu, ça veut dire « merci », tout simplement dire « merci ». Il ne disait pas « la Sainte Seine », par exemple. Ou bien le mot eucharistie qui veut dire rendre grâce, par exemple. Non, il l'appelait merci, puis après les choses petit à petit ont changé dans l'histoire de l'Église. C'est intéressant de suivre toute l'histoire de l'Église. C'est passionnant. Amen. Mais on va rester là et puis peut-être continuer ensemble en disant qu'il nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ. J'ai oublié de le dire tout à l'heure en citant 1 Corinthiens 1. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. mais aussi automatiquement les uns avec les autres, dans le nom de Jésus. Amen. Merci.
Merci beaucoup.